Radio Spirale. En février 2012, Catherine Leclerc rencontrait Sherry Simon, Will Straw et Simon Harel lors d'une table ronde sur le thème des villes multiculturelles comme Calcutta, Trieste et Barcelone, mais on parlera surtout ici de Montréal, à l'histoire façonnée par la culture française, irlandaise, américaine et yiddish.
Bonjour, bonsoir. Je suis Catherine Leclerc. Je vais d'abord présenter les panélistes que vous connaissez évidemment déjà. Petit rappel peut-être, bon, ce sera une conversation à bâton rompu qui durera environ une heure et vous êtes invité pour le vin d'honneur ensuite. Donc, je commencerai par Will Straw qui est tout à fait à ma droite et qui est en fait mon presque voisin de palier à McGill. Il est professeur au département d'histoire de l'art et de communication et depuis peu directeur de l'Institut d'études canadiennes de McGill. Il s'intéresse au rapport entre langues et médias en contexte urbain, notamment à Montréal. Il est le co-directeur d'un livre dont Sherry Simon fait d'ailleurs usage dans le sien, qui s'appelle « Circulation in the City, Essays on Urban Culture », qui est paru chez McGill Queens en 2010. Et il travaille aussi dans des projets de recherche subventionnés sur print culture and urban visuality. Je passe, ces gens-là sont bardés de prix. Je serai brève de ce côté. Simon Harel est maintenant directeur du département de littérature comparée de l'Université de Montréal. Son premier livre, Le voleur de parcours, qui date de 1989 et a été réédité depuis, s'intéressait déjà aux trajectoires urbaines dans le Montréal littéraire. Il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Braconnage identitaire et qui reprend sous un angle différent les questions d'occupation du territoire. Et il est l'auteur de deux nouveaux livres. Il est très prolifique. Habiter... Le défaut des langues, l'analyste, l'analyse, l'écrivain sur Billon. Et avec Isabelle Saint-Amand, les figures du siège au Québec, concertation et conflit en contexte minoritaire. Et finalement, Sherry Simon qui nous rassemble aujourd'hui et qui est l'auteur de ce livre-ci, Cities in Translation, mais aussi il n'y a pas si longtemps de Translating Montreal Episodes in the Life of a Divided City. Et bien avant ça, d'un livre qui continue d'avoir de l'influence aujourd'hui, Le trafic des langues, traduction et culture en littérature québécoise. Donc, messieurs, dames, on va parler de langues au pluriel et de villes, au pluriel aussi probablement. Mais je commencerai peut-être par une mise au point concernant le travail de Sherry Simon et sur laquelle je vous interpellerai. Toutes les villes sont plurilingues, ce sont des lieux de plurilinguisme par excellence, mais les villes qui intéressent Sherry Simon ont ceci de particulier que ce plurilinguisme-là n'est pas fédéré par une langue dominante qu'on pourrait distinguer clairement. Au contraire, la langue dominante change, ou deux langues sont en compétition pour ce statut. C'est quelque chose qu'elle avait déjà théorisé dans Translating Montreal, mais sur quoi elle revient dans Cities in Translation en abordant plusieurs villes qui ont cette caractéristique de ne pas avoir une langue dominante claire. La première question que je voudrais vous poser à tous, ce serait justement qu'est-ce qui est spécifique à ces villes-là qui fait que le plurilinguisme ne s'y manifeste pas de la même manière que le modèle cosmopolite qu'on a généralement en tête lorsqu'on pense au plurilinguisme et aux villes. Je ne sais pas à qui je dois lancer la question en premier, mais...
Peut-être que je vais commencer le bal. Et pour dire que effectivement, nous avons en commun, je le sais, une fascination avec notre ville qui est Montréal. Et Montréal est différente de Toronto, est différente de New York, est différente de Paris, parce que Montréal est une ville où il y a, où Montréal, où le français est actuellement évidemment la langue dominante, mais où longtemps il y a eu contestation autour de la langue. Et donc, les rapports entre les langues, que ce soit les langues tierces ou les langues d'immigration, sont compliqués. Par cette chose-là. Et ça donne une sensibilité. Ça donne une sensibilité à la ville qui est différente, où on ne peut jamais prendre, en fait, la langue pour acquis. J'ai découvert cette même sensibilité dans d'autres villes. J'ai mon choix personnel. Il y a certainement d'autres villes que l'on peut ajouter. Mais Barcelone, par exemple, que certains d'entre vous doivent bien connaître, est une ville où on sent cette même tension. S'agit-il, j'ai posé la question à plusieurs personnes, à chaque fois que j'y vais, je pose la question, est-ce que Barcelone est une ville catalane ou une ville espagnole? Et à chaque fois, je reçois des réponses différentes, dépendant de la personne à qui je parle. Donc, Barcelone ou... pour aller dans le passé, prendre un exemple comme Trieste, qui a toujours été une ville italienne, une ville de langue italienne, mais en conversation avec d'autres langues, en conversation avec l'allemand, en conversation avec les langues slovènes et croates qui entourent la ville. Cela fait que, même si on considère que toutes les langues toutes les villes sont multilingues, et l'on sait que New York, Toronto, enfin, le multilinguisme est aujourd'hui le fait dominant de ces villes-là, on peut dire. Il n'y a pas de question par rapport à l'anglais à New York. C'est la langue dominante et on s'y conforme. Donc, il y a une sensibilité de coin de rue, je dirais, où à chaque coin de rue, à l'intersection, les langues se confrontent. Il y a une sensibilité d'interaction. Il y a aussi une autre... Enfin, je veux introduire peut-être la notion de circulation, qui est une notion qui est chère à mes collègues, où les langues circulent, se rencontrent, se confrontent et se traduisent dans des atmosphères qui ne sont pas toujours des atmosphères les plus paisibles. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter par rapport à la circulation des langues.
Mais en fait, c'est pas la notion de la circulation que je voulais répondre, mais c'est en parlant des langues, des villes où on a... Mais je pense qu'on ne peut pas dire que Montréal a deux langues dominantes, il me semble, parce que c'est évident que le français est dominant. Mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est le statut de l'anglais où on peut être à la fois... Si on est anglophone, on est à la fois minoritaire, mais évidemment, entouré d'une culture qui rend l'anglais pas du tout vulnérable. Alors je pense que tout le côté bohémien des anglophones de Montréal vient du fait qu'ils ont la préciosité, on peut dire ça, preciousness, de se tenir pour une minorité, alors qu'évidemment, toute notre langue est appuyée par le maire de l'anglais qui nous entoure. Et c'est quelque chose de très particulier ici à Montréal que je trouve fascinant. Qu'est-ce que ça a à voir avec la circulation? Je ne sais pas. Mais c'est évident que ce qui se fait ici en anglais circule dans cet océan d'anglais qui nous entoure, qui se fait renforcer par cette circulation, alors que, évidemment, les circuits circulatoires de ce qui se fait ici en français est différent et peut-être un peu plus restreint ou un peu plus difficile, disons.
Si je peux... relancer la question à Simon Harel. Simon Harel a théorisé des notions telles que celle de passeur, par exemple. Or, dans Cities in Translation, ce qu'on trouve, c'est une série de personnages assez excentriques, dont certains bohémiens, tels ceux dont parlait Will, qui traversent des territoires qui sont souvent... en ségrégation et ramène des trésors. Et je serais curieuse d'entendre Simon sur ce sujet-là. Je pense entre autres à ce personnage de Long dans le chapitre sur Calcutta, ou dans celui sur Montréal, la très discrète épouse de F.R. Scott, qu'on découvre dans Cities and Translation, et qui fait des traversées que ne faisait pas nécessairement son mari, même si lui essayait de construire des ponts. Donc cette figure du passeur, comment est-ce qu'elle fonctionne?
Montréal est une ville paisible, hein, c'est agréable. Et en même temps, c'est une ville où se pose, Cheryl l'a bien montré dans plusieurs de ses livres, toute la dimension du conflit, mais à échelle humaine. Hein. Elle vient de le dire, c'est-à-dire que ça se joue à l'intersection d'une rue et d'une autre, en fait, à l'intersection d'une rue, au coin. Montréal est un laboratoire vivant, c'est un living lab. Il me semble que ça pourrait être une grande ville de traduction si l'on envisage la traduction hors du domaine académique comme une réflexion et une mise en pratique de ce qui se passe dans la vie quotidienne, c'est-à-dire des récits de traduction qui sont plus ou moins réussis, ce qui dans la traduction quotidienne, dans l'interaction des individus, des sujets dans une ville ne passe pas. La figure du passeur, moi je crois que Montréal a d'une certaine manière une sorte de baguette magique qui l'a fait ressembler à cette grande ville alternative dont rêve Simon Brault, le président de Culture Montréal, qui est évidemment un modèle intéressant parce qu'il n'y a pas autre chose qu'à Montréal que d'être dans l'alternatif, même dans l'alternatif académique. Dans la mesure où le pouvoir économique n'est pas à Montréal, le pouvoir politique n'est pas à Montréal, le pouvoir culturel y est, mais c'est celui d'une communauté importante, une communauté francophone minoritaire, qui se pose des questions et des défis absolument fascinants, qui sont ceux d'être majoritaire, tout en permettant aux Anglos du plateau Mont-Royal, qui ont transité par le Mile End, qui se prennent pour des hipsters post-Arcade Fire, de renouveler la scène musicale montréalaise, québécoise, francophone. En fait, il y a plein de choses absolument extraordinaires qui se jouent à Montréal. Et là, ça se passe dans le domaine des langues et de la musique, beaucoup. Il faudra peut-être en parler, c'est-à-dire qu'il y a traduction de langage à langage, mais il y a aussi traduction de musique, image, son, corps. Il semble plus facile de passer par ces modes d'expression culturelle que de passer par la langue. Très souvent, lorsqu'on parle des succès montréalais, c'est Arcade Fire, c'est le Cirque du Soleil, c'est Moment Factory, bon, il y en a des dizaines. Et ça passe moins par la dimension narrative et romanesque. Mais pour revenir à ce que Catherine proposait, ben, la figure du passeur, elle est intéressante, sauf que le passeur est un peu fatigué. J'ai l'impression que ce qu'on observe, si l'on compare ce qui a pu être théorisé il y a déjà un certain nombre d'années autour de ces figures assez euphoriques du passeur, belle néanmoins, mais sans doute euphorique, c'est que les parcours sont de plus en plus, je dirais, non pas épuisants, mais chaotiques. Et moi, je crois qu'il y a ça dans Montréal. Bon, j'en parle puisque Sherry nous a donné la possibilité finalement de, pas de dire ce qu'on veut, mais elle nous a invités très, très, très amicalement. Alors, Will parlait de la préciosité montréalaise. Il y a cette dimension, c'est-à-dire d'avoir le double expresso, comme ça, à 3 heures de l'après-midi, à côté de McGill, Concordia. À l'UQAM, c'était possible. À l'Université de Montréal, c'est difficile. C'est un grand choc pour moi. Oui, je sais que ça a été inventé par vous. Voilà, c'est Concordia qui gagne. Mais il y a donc à la fois cette dimension de préciosité, c'est le monde des vrais cafés, puis il y a en même temps cette dimension qui est chaotique, celle des nids de poules, de la circulation impossible, à échelle humaine bien sûr, c'est pas Rio de Janeiro, Sao Paulo ou Mexico. Et c'est une façon d'être dans la vie par le biais de la traduction, moi, qui me semble être un aspect important de la réalité montréalaise. C'est-à-dire que passage, traduction, passage entre les langues, médiation, mais aussi inconfort, conflit, avec un sentiment probablement très montréalais aussi, bon, qui caractérise les villes qui ont une certaine histoire, et Montréal a une longue histoire en Amérique du Nord, que finalement, c'est pas un nid de poule qui nous empêche de vivre. Hein. On en a vu d'autres.
Je relancerai Sherry en par le biais de Simon Harel, chez qui, ces dernières années, les passeurs sont aussi contrebandiers. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ces figures de Cities in Translation qui étaient des figures presque de contrebande. Je serais curieuse d'entendre Sherry à ce sujet.
Ça marcherait bien, en effet. Il y a des personnages, tu as mentionné le Reverend James Long, qui est un personnage que j'ai appris à aimer beaucoup, qui était un missionnaire qui était à Calcutta à la fin du 19e siècle. Et qui était un missionnaire, mais c'est un missionnaire bien bizarre, puisqu'il était vraiment, il traduisait plutôt vers la langue bengali. Il était un nationaliste bengali. Il ne se croyait pas vraiment occidental. Il se prenait pour quelqu'un d'orientalisé. Et il habitait pleinement cette ville, il connaissait tous les raccoins, et il avait été même emprisonné par les Anglais. C'est-à-dire qu'il était à ce point-là en conflit avec les Anglais lui-même. Donc c'est un personnage qui a fait beaucoup de traductions, qui a fait beaucoup pour la traduction, mais qui est un personnage tout à fait paradoxal. Parler de l'époque coloniale de Calcutta comme une ville en traduction, parler de Nicosie comme je le fais au début de mon livre, c'est rappeler que la traduction n'est pas toujours une figure heureuse et que Montréal aussi est où la traduction fonctionne parfois, est aux prises avec le conflit, les possibilités de chaos, je pense à un très très beau film de Robert Morin qui s'appelle Yes Sir Madame, qu'il a fait dans les années 1994, où il commence avec un chaos total, un breakdown. La traduction ne marche plus, les langues se confondent. C'est l'histoire d'un individu qui se traduit lui-même, puis qu'à la fin, il y a deux personnages en lui qui se querellent et qui sont aux prises, qui sont même aux prises avec un conflit, une violence réelle, c'est-à-dire qu'il essaie de, il y a une partie de lui qui essaie de faire mal à l'autre partie, c'est à ce point. Et les langues sont le symptôme de cette déchéance. Alors, il y a un risque avec la traduction. La traduction n'est pas toujours une opération là, paisible, ne garantit pas le bonheur. Au contraire, il y a des formes de traduction qui sont dangereuses. Il y a des formes de traduction qui ne marchent pas, qui n'ont pas une fin bénéfique pour tous. Et je pense que là aussi, Montréal offre beaucoup de possibilités de comprendre à quel point la traduction est une figure riche, mais variée. Mais où nous avons la possibilité, comme dit Simon, et je pense que c'est important de le rappeler, de vivre dans un monde paisible, où la traduction peut continuer à fonctionner sans qu'on vive la perversion de la ville qu'on trouve à Nicosie. Hein, je veux juste terminer avec ça. La ville de Nicosie, c'est la capitale de Chypre. C'est une ville qui est totalement divisée. C'est une ville qui est la perversion d'une ville, puisque la frontière ne se trouve pas à l'entour de la ville, mais à l'intérieur de la ville. Ça ne devrait pas arriver à aucune ville. Pourtant, ça arrive à des villes. Il y en a d'autres et je ne les nommerai pas. Mais vous les connaissez, des villes, les villes qui sont divisées pour vrai. Et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe de la ville. Cette division totale où la traduction n'est plus possible, où il faut imaginer seulement la traduction. Donc Montréal, là, nous fournit un exemple de la traduction variable, compliquée, complexe, mais encore une fois paisible.
Oui, mais je voulais juste, parce que vous avez parlé du film de Morin, est-ce que pour vous, l'idéal, parce que dans le film de Morin, le bilinguisme est incarné dans une sous-personne. Alors, on peut imaginer le bilinguisme comme quelque chose, chaque personne est bilingue, ou on peut imaginer le bilinguisme comme processus constant d'échange, de traduction. Est-ce que pour vous, l'idéal ou l'utopie d'une vie bilingue, c'est que chacun soit bilingue ou qu'il y a toujours des échanges entre les langues? C'est quand la division est interne à chaque personne qu'on a une vie vraiment bilingue ou quand ça nécessite des transactions, des échanges, la communication, qu'on a le bilinguisme à son sommet?
C'est une bonne question. J'essaie d'éviter la notion de ville bilingue quand je parle de Montréal, parce que nous savons que le bilinguisme chez nous n'a pas, disons, bonne réputation. Donc, pour moi, ce n'est pas une ville bilingue, c'est une ville en traduction, c'est-à-dire une ville où les langues sont toujours en mouvement les uns face aux autres. Et le bilinguisme personnel, j'enseigne la traduction, je suis professeur de traduction et quand quelqu'un veut être admis au programme et me dit qu'ils sont parfaitement bilingues, je sais que ce ne sont pas des bons traducteurs. Et je sais que c'est pas vrai de toute façon, parce que les parfaits bilingues, c'est une espèce de mythe, parce qu'on n'est jamais parfaitement. Et de toute façon, un traducteur, ou le modèle pour moi, c'est le traducteur, et le traducteur n'est pas bilingue. Le traducteur a une force dans une langue et une force dans une autre, mais ce ne sont pas les forces pareilles. Alors, l'idée de ville bilingue, merci de l'avoir dit, je suis contre.
Je poserai une question linguistique à Sherry qui pourra peut-être nous permettre de discuter de deux concepts qu'elle met en place dans son livre. Elle parle de deux types de traductions qu'elle oppose, mais qui en même temps marchent ensemble selon des équilibres différents et changeants, furthering et distancing. Et j'ai trouvé intéressant qu'ici la paire soit pas celle de la distance et du rapprochement exactement. Furthering peut vouloir dire rapprochement, mais pas tout à fait. Et j'étais curieuse du choix de ce mot-là pour mettre en face de distancing.
C'est que c'est curieux que la traduction peut, au lieu de rapprocher les gens, peut montrer les distances entre les gens, peut accentuer les distances. Je prends des exemples que vous connaissez, vous connaissez peut-être dans les années 40, F.R. Scott, par exemple, qui a traduit Anne Hébert. Il a traduit Anne Hébert d'une manière littérale et toute la manière de sa traduction montrait la distance qu'il y avait entre les communautés à cette époque-là. La traduction ne servait qu'à montrer à quel point la littérature francophone d'une part et la littérature anglophone de l'autre étaient distantes, différentes, appartenaient à des communautés qui ne pouvaient pas se rapprocher à ce moment-là. Et la traduction, par la méthode qu'il avait, par le discours qu'il faisait pour l'entourer, ne faisait qu'accentuer cette distance-là. Alors qu'il y a d'autres sortes de traductions, à mon avis, qui ont un effet contraire. Et je prends comme exemple un traducteur importantissime à Montréal en ce moment, c'est Pierre Anquetil, celui qui traduit le yiddish vers le français. Alors là, l'effet est tout le contraire, à cause aussi du discours qui est fait, à cause du type de traduction qui est fait, je ne peux pas entrer dans les détails, mais l'impact final de la traduction, dans le cas de Pierre Anquetil, c'est de montrer à quel point les communautés se rapprochent les uns des autres. Alors qu'ils étaient distants à un moment donné, là, ils se rapprochent. Alors, il y a des effets très différents selon le projet, selon la personne qui mène ce projet, selon le contexte aussi.
Un élément qui est donné à propos de, et je vous inviterai à le commenter dans Cities in Translation à propos de ces traductions qui sont soit distancing ou furthering, c'est que la traduction qui est mise à distance, elle rappelle justement les mémoires respectives des communautés qui sont en traduction. Alors que celles qui seraient « furthering », elle leur permet d'engager la conversation. J'ajouterais à cela peut-être, et le mot « furthering » contient cette idée, Sherry a analysé les traductions de Anctil aussi comme le signe d'un changement dans l'univers québécois francophone, du pouvoir du français de servir de langue fédératrice jusqu'à un certain point, de langue absorbant de nouvelles mémoires, pouvoir que le français n'avait pas quelques 40 ans plus tôt. Donc, je vous inviterai peut-être à commenter ce double effet.
Je vais vous raconter un truc que je fais en ce moment. Je fais la tournée des cégeps. En fait, c'est comme je suis directeur d'un département de littérature comparée qui est très cher à mon cœur, tout récemment, mais bon, qui a une grande tradition. Sherry a fait des études au département de littérature comparée autrefois. Je fais donc la tournée des cégeps, de quelques cégeps, afin de leur présenter le programme et puis de susciter, bien sûr, des inscriptions. C'est la logique un peu de l'histoire, mais donc je vais un peu partout, Saint-Laurent, Marie-Victorin, Maisonneuve, tout ça. Ils sont surpris de me voir arriver avec mon PowerPoint, comme si j'étais ce que je suis, un voyageur de commerce académique. Mais bon, ça fait partie de la compétition montréalaise, hein, entre université et entre collègues, évidemment, tout à fait amicalement. Et puis je les vois, ils ont quoi? Ils ont 18-19 ans. Bon. Et ce que je leur dis, puis pour eux, ça semble tellement naturel, je leur dis, écoutez, la littérature comparée, c'est intéressant pour différentes raisons, mais ça implique notamment la maîtrise des langues, et puis évidemment, le trilinguisme absolu, ça n'existe pas. Bon, c'est pas bon. Mais néanmoins, j'arrive là dans un terrain absolument extraordinaire, parce qu'il est à la fois étranger et familier. Quand je leur dis, ce sont des statistiques récentes, tout à fait validées, que 30% de la population de Montréal est trilingue, et que c'est la ville nord-américaine où le trilinguisme est le plus important. Toronto, 14%. Miami, c'est la deuxième ville en Amérique du Nord. Mais Miami, c'est à la fois l'Amérique du Nord, c'est à la fois les Caraïbes, c'est l'Amérique du Sud. C'est 20%. Ottawa, c'est quoi? C'est 6%, 5% avec Gatineau. Calgary, 2%. Bon. Alors, ce qui les intéresse, c'est simplement d'entendre dans cette description, cette énumération statistique, leur propre réalité. Et ils vont dans les cégeps francophones, ils font des études de littérature, alors ils vont lire Philip Roth, ils vont lire Flaubert, ils vont lire Nicole Brassard, France Théoret, mais ils sont en même temps dans cet univers dont parlait Catherine à l'instant, dont Sherry parlait, c'est-à-dire que le français devient non pas une assise normative, encore qu'il faut qu'une langue incarne, je dirais, une façon d'être dans le monde, de bien parler, de se situer avec un langage dans une posture qui permet de se tenir debout. C'est ça, une langue, c'est avoir une dignité. Mais cette réalité qui est celle du français, qui pour beaucoup d'entre eux est une langue d'adoption, plus ou moins récente, leur permet justement de vivre dans un univers où l'on pourrait se mettre à rêver que Montréal pourrait devenir une ville extraordinaire dans le domaine de l'économie du savoir, dans 14 guillemets, là. Mais, et même 18, si vous voulez, je ne parlerai pas d'économie numérique, 24, mais pourrait devenir une grande ville de traduction. Saskia Sassen, qui a beaucoup écrit sur l'économie des mégapoles, Montréal est une petite métropole, une métropole de petite taille, ça n'insultera personne, insiste beaucoup sur la sphère des télécommunications, du broadband, de la bande passante, de la City de Londres, des grandes places boursières, comment Francfort va chercher des parts de marché, comment Londres, d'une certaine manière, et comment Tokyo sont en concurrence. Bon. Mais on pourrait avoir la même réflexion, et peut-être que c'est simplement mon ignorance que ça s'est fait et que vous le faites régulièrement en traduction, mais se dire, dans le contexte même d'une réflexion sur la traduction au quotidien, comme force économique, pourquoi ça peut marcher à Montréal? Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais ça pourrait marcher. Montréal pourrait devenir une better city, hein, c'est l'expression que Saskia emploie à propos de l'importance des villes comme réseau. Et pourquoi ça marche à Montréal et pourquoi ça n'a jamais marché à Ottawa? C'est quand même intéressant de se poser ces questions, pas en termes d'affrontement bête ou de politique politicienne, mais autour de cette question des villes, de la traduction le trilinguisme dans le cas de Montréal, justement, permet de faire intervenir autre chose que la crainte du bilinguisme, qui, le rapport au double, avec toutes les frayeurs que ça suscite, l'autre soi-même, l'anglophone, et puis d'ouvrir un tiers espace, justement.
Pas tout de suite?
Non. En vous écoutant, je pense... Alors, Silicon Valley, est-ce qu'il y a du bilinguisme là qui fait sa force? On dit, évidemment, ça attire des immigrants à travers le monde, mais c'est quoi la pratique de la langue là où ils ont supposément avoir inventé tout ce qui est merveilleux dans le monde du broadband, de l'Internet et tout ça? Alors, moi aussi, j'ai lu les mêmes documents de la ville de Montréal, sous la ville de Montréal, le technotopie et le rôle du bilinguisme, trilinguisme dedans, mais est-ce qu'il y a d'autres cas où on peut dire que c'est à cause de la présence de deux, trois langues qu'une ville devient numéro un dans ce domaine-là? Non.
J'en profiterai tout de même pour revenir sur un terme mentionné par Simon et qui est au cœur du livre de Sherry, celui de d'espace tiers et ce qu'elle appelle third terms. Et en fait, c'est dans Cities in Translation, ça intervient très, très tôt. Dès le chapitre sur Calcutta, et je vous donne la citation. The apparent duality of the city's shape and languages turns out to be both powerful and deceptive, at every turn interrupted by third terms that complicate the pattern of domination and exchange. Ce commentaire-là est fait dans le chapitre sur Calcutta, mais à la fin du livre, quand arrive le chapitre sur Montréal, en fait, l'entièreté du chapitre porte sur cette question des termes tiers. Donc peut-être Sherry pourrait nous expliquer un peu ce qu'elle entend par là et comment ça se passe.
Je peux commencer en parlant de Montréal. Quand j'ai commencé à écrire sur Montréal et dans mon livre sur Montréal, qui a été publié il y a plusieurs années, pour moi, la réalité de Montréal, la vérité, le moment qui exprimait l'esprit authentique de la ville, c'était les années 60. C'était les années 60 avec cette poussée du nationalisme culturel québécois, avec le nouveau renouveau du pouvoir économique et politique québécois, et l'engouement d'un certaine population anglophone pour... ce Montréal francophone, et en même temps un discours qui devenait de plus en plus un discours de à la fois d'attirance, mais aussi de conflit à deux termes. Hein. C'était vraiment cette polarité qui définissait la ville et la figure qui me semblait le mieux incarner cette réalité, cet esprit, c'était quelqu'un comme Malcolm Reed, qui était un anglophone qui marche vers l'Est pour trouver la réalité et la vérité de la ville. Au contre-courant, il y avait des marcheurs qui partaient de l'Est vers l'Ouest pour trouver d'autres réalités aussi, mais c'était vraiment cette réalité à deux termes qui cristallisait la réalité de Montréal. Mais à bien réfléchir, et maintenant, le moment qui me semble encore plus vrai pour Montréal, ce sont les années 40. Et dans les années 40, ce que l'on voit à Montréal, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la présence simultanée de trois mouvements littéraires, sociaux, culturels, en trois langues différentes, qui sont aussi puissants les uns les autres. Vous avez la modernité francophone qui va se cristalliser autour du refus global. Vous avez la modernité anglophone qui était très forte à Montréal. Montréal était le centre de la modernité canadienne. On l'oublie parce que maintenant, ce centre a déménagé. On sait où, mais ce n'est plus à Montréal. Mais c'était Montréal. Montréal était le centre du mouvement moderniste anglophone, anglo-saxon, avec un nombre important d'auteurs, poètes, peintres, etc. Mais il y avait un troisième mouvement, et c'était la modernité en langue yiddish. parce que la yiddish, le yiddish était une langue parlée par une grande partie des immigrants juifs, habitaient de façon assez, disons, appropriée le centre de Montréal, entre les francophones et les anglophones, et puis avaient aussi une importante, un important mouvement de peinture, de poésie, de théâtre. Il y avait vraiment un mouvement autour de certains salonniers qui avaient pignon sur rue, sur la rue Esplanade, par exemple. Donc, cette figuration me semblait assez parlante, cette notion d'un triangle, surtout parce que de nos jours, Montréal, c'est ça aussi. Ce sont des réalités francophones, des réalités anglophones, mais aussi il y a des puissantes réalités autres qui constituent un troisième espace, mais un troisième espace qui maintenant habite la ville entière. Hein, la ville n'est plus aussi divisée qu'elle l'était, on ne peut plus localiser ces choses-là. Mais cette figure du triangle me semble mieux parler de la réalité de Montréal que cet autre moment privilégié qui était les années 60. Et en regardant, en étudiant mes autres villes, je trouve aussi des troisièmes espaces, Barcelone avec l'arabe, par exemple, et d'autres langues d'immigration, et ces quartiers symboliques, Calcutta aussi avec son espace tiers, parce que Calcutta avait une topographie culturelle coloniale semblable à Montréal, avec ces deux parties divisées et une partie tierce. Et Trieste aussi, avec ses zones un peu, disons, qui se distinguent de l'ensemble de la ville. Donc, je suis plus à l'aise avec cette notion de troisième espace qui me semble ouvrir mieux à une discussion des dynamiques culturelles qui sont les nôtres.
Est-ce que paradoxalement, les tensions duelles seraient génératrices d'un troisième espace? Si Simon parlait tout à l'heure justement de ce trilinguisme qui est plus élevé ici qu'ailleurs, peut-être précisément parce qu'il y a deux langues qui étaient traditionnellement en conflit, est-ce que ça ferait peut-être par accident plus de place pour ces espaces tiers?
Mais je sais que ce n'est pas moi qui pose des questions, mais je voulais demander à Sherry s'il y a trois modernités, trois modernismes des années 40. Est-ce qu'il y a trois postmodernismes, trois postmodernités dans les 20, 25 dernières années? Est-ce qu'on peut identifier un autre, à part l'anglais et le français, une autre langue dans laquelle s'est exprimé un nouveau esprit montréalais? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Ou est-ce qu'on ne les connaît pas du tout?
Non, mais la modernité anglaise est partie. Elle est partie pour revenir par la suite sous d'autres formes. Alors, nous avons maintenant une littérature en langue anglaise assez dynamique, mais qui n'a pas la même forme, disons, que l'autre. La langue yiddish a disparu pour d'autres raisons. Moi, je pense que c'est qu'il faut... Il faut voir un petit peu davantage le français aujourd'hui comme cette langue mixte, cet espace réceptacle qui est capable d'accommoder plusieurs modernités, plusieurs postmodernités à l'intérieur du français. C'est le français qui traduit, qui se fait traduire, qui accueille, qui fait... qui devient pluriel. Enfin, je verrais ça davantage de cette manière.
Et ce qui se fait ici en anglais est devenu de moins en moins pluriel, dirais-tu?
Et devient de moins en moins...
Moins pluriel.
Ah, c'est une bonne question.
Si on prend l'exemple d'Arcade Fire, si on parle en fait de la musique, on peut dire qu'on aime Arcade Fire, mais je ne dirais pas que c'est une musique plurielle qui assimile beaucoup d'influences ou de styles ou d'identités.
Mais il y a une fuite de la langue aussi, autant qu'on peut dire que le français s'enrichit d'autres cultures, qu'il y a beaucoup de choses qui se font en littérature, que vous avez Wajdi Mouawad, ou que vous avez, ce que je trouve encore plus intéressant, vous avez Denis Villeneuve qui continue le voyage de Wajdi Mouawad. Je trouve que le film de Denis Villeneuve est un petit peu symbolique de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des allées et allées-venir, enfin il y a des allées-retours à partir d'un thème où vous avez des gens qui arrivent ici, qui font une œuvre en français, et ensuite il y a quelqu'un d'ici qui reprend ce thème, qui le fait avancer, qui fait quelque chose avec et qui le transforme aussi. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant. De l'autre côté, je pense que Simon l'a dit assez bien, il y a une fuite. Les arts s'expriment autrement qu'avec les langues. Hein, il y a le cirque, il y a la danse, il y a Robert Lepage, j'allais dire Céline Dion, mais c'est autre chose. Mais il y a une fuite de la langue. On veut créer sans la langue.
Peut-être en partie parce qu'on est pris, je me permettrai de vous raconter une petite histoire qui se passe près de chez moi. Près de chez Boris aussi, qui est mon voisin. Il y a ce bar, ce tout petit bar qui doit exister depuis longtemps, près de chez moi. J'habite dans pas très loin d'ici, en fait, et qui s'appelle le Bièvre. L'enseigne est peinte à la main. C'est très artisanal. Ça n'a pas l'air d'être un endroit ultra populaire. J'y suis jamais allée, je confesserai. On a l'impression que c'est un jeu de mots sur lièvre en français, et la peinture est très campagnarde. Et puis, on regarde d'un peu plus près, et ce qu'on voit, c'est un castor. Beaver, respectant la loi des signes, est réinterprété, réécrit, bièvre. Alors, est-ce un lièvre ou un castor? Et dans ce jeu de mots-là, il y a énormément de ludisme, et je pense à Nicole Nolette qui est derrière, mais il y a aussi un grand malaise. Et peut-être que fuir la question des langues, c'est fuir ce malaise-là. Peut-être vous aurez des anecdotes montréalaises de...
La langue a toujours, fait au Québec, c'est une histoire de fou. Hein. Je veux dire, mais bon, c'est comme ça qu'on vit. Mais ça pose la question, justement, comme le mentionnait Sherry, du français. Enfin, c'est pas le français d'ailleurs, c'est les locuteurs. On a tendance, hein, c'est du sujet qui parle de français et pas le français comme langue. À accepter le fait de, comment dire, non seulement d'une émancipation, mais d'un succès économique, culturel, et puis de faire en sorte que le français devienne une langue qui tient lieu de matrice pour la création d'un espace tiers. Mais la question, c'est, est-ce qu'on peut, lorsqu'on est dans le domaine de la politique de la langue, ce qui est beaucoup plus dur, et au Québec, il y a eu des... C'est plus calme maintenant, mais il y a eu des affrontements épiques. Est-ce qu'on peut être dans le domaine de l'espace tiers? En d'autres termes, est-ce qu'on peut, à partir de cette perspective qui est celle... en fait, tout le monde souhaiterait, et nous souhaitons que les langues soient des refuges, qu'elles accueillent, mais ce n'est pas toujours comme ça. J'ai le sentiment que dans un certain nombre de débats qui ont cours en ce moment, notamment à propos de l'avenir de Montréal, tout le débat, par exemple, sur les couronnes montréalaises, la couronne nord, la couronne sud, la grande région de Montréal, l'île de Montréal, il y a quelque chose qui se joue, qui se déploie, qui a trait à cette possibilité que le français soit une langue non pas fédératrice, mais soit une langue dont les locuteurs acceptent le fait qu'elle peut accueillir Donc, qu'elle puisse accueillir quoi? Qu'elle puisse accueillir des affects, des sensations, des expériences émotionnelles, personnelles. Celles, par exemple, de ces étudiantes de cégep que j'ai rencontrées il y a quelques jours. Et qu'elle ne soit pas cette langue simplement, je dirais, une expression sèche d'une loi ou d'un droit de, je dirais... d'imposer sa langue, ce qui se fait facilement, mais qui ne se fait, mais on ne se fait pas aimer nécessairement lorsqu'on vit génération sur génération de cette manière. Donc, on aurait peut-être besoin de politiciens traducteurs.
J'interpellerai Will à ce sujet. En 96, Sherry écrivait un article où elle disait justement que le discours des médias était beaucoup plus dur que celui des artistes en ce qui concernait l'interaction entre les langues. Est-ce que c'est encore le cas? Comment ça se passe?
Tu veux dire la façon dont les médias ont parlé de la question de la langue?
Oui.
Mais sûrement, je dirais d'abord que les médias, il n'y a rien qui divise les Montréalais plus que les médias. Alors on peut être... Tu parles dans ton livre la coin de, du coin de la rue. Oui, les gens sont en compte, mais quand les gens rentrent chez eux, mais chaque anglophone que je connais qui est venu à Montréal, commence à dire, bon, je vais écouter des nouvelles francophones en français, je vais écouter la télé française après une semaine, parce qu'on écoute la télé quand on est paresseux, on veut se reposer, on finit par toujours regarder dans sa propre langue. Alors, je dirais d'abord qu'il y a peu d'institutions aussi investies dans la division des langues à Montréal que les médias. Les médias anglophones n'existeraient pas sans cette division. Alors, les arts visuels, je trouve ça un peu surprenant que malgré le fait que la langue n'a pas une présence évidente dans les tableaux, par exemple, que les milieux d'art visuel restent plus ou moins divisé, mais en fait, depuis quelques années, je vois qu'ils depuis qu'ils ont mis toutes les petites galeries dans le Belgo Building au centre, ils sont obligés de se rencontrer au moins dans l'ascenseur. Mais même là, les revues, il y avait les médias en fait qui soutiennent les milieux des arts visuels font tout ce qu'ils font, ils peuvent pour assurer la division entre les deux. Mais je trouve que oui, c'est dans les arts visuels, un peu dans la musique populaire, mais même là, les divisions restent, malgré le fait que la musique n'est pas très linguistique. Alors, c'est toujours fascinant à Montréal comment les formes d'art qui ne sont pas basées sur une pratique de langue très évidente restent quand même assez divisées. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais...
Non, j'ai toujours... était fasciné par effectivement le manque de passage ou l'absence de passage, mais de temps en temps, tout d'un coup, on a quelque chose comme bon cop, bad cop, qui à mon avis est incroyablement réussi parce que c'est une utilisation du film à partir des sous-titres, c'est une utilisation des sous-titres pour faire passer un message, pour jouer avec le médium. Et je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas plus de jeu. Hein. Il y a parfois dans le théâtre, vous avez des pièces multilingues, plus ou moins réussies. Il faut que ça soit vraiment bien fait, il faut que ça soit intéressant. Il y a l'humour. Récemment, il y avait une chronique sur Sugar Sammy, qui paraît-il fait de l'humour bilingue. Et je pense que ça commence beaucoup dans ces sous-genres, les espèces de passages, alors que d'autres médiums ne veulent pas s'immiscer, ne veulent pas jouer, alors qu'on sait bien qu'il pourrait y avoir des lecteurs qui sont tout à fait à l'aise dans les deux langues, qui pourraient... il y a un blocage. Je trouvais intéressant ce que Will vient de dire sur les médias qui sont investis dans la différence de langue. Ça, je trouve ça très éclairant comme idée. Il y a aussi l'institution littéraire qui est hyper investie dans la différence de langue et qui n'aime pas beaucoup les transgressions. Vous avez un roman, c'est un roman fétiche pour moi, c'est un roman qui a été écrit dans les années 90 par quelqu'un qui s'appelle, un peu avant, Christine Brooke Rose. Le roman s'appelle « Between ». Et c'est un roman qui se passe « between » les langues et plusieurs langues, y compris l'allemand et le français. Et c'est hilarant. Évidemment, il faut avoir des bases d'allemand et de français pour pouvoir, et d'anglais pour pouvoir jouir de ce roman qui est vraiment extrêmement bien fait. Mais c'est un roman peu étudié. Pourquoi? Parce que ça transgresse. À Barcelone, j'ai trouvé ça aussi absolument fascinant qu'on puisse... écrire sur Barcelone indifféremment en espagnol ou en catalan en faisant croire dans les deux cas qu'il s'agit de la même ville. Alors les romanciers de langue espagnole écrivent en espagnol sur la ville de Barcelone en faisant de Barcelone une ville espagnole. Le contraire pour le catalan. Et c'est encore... c'est vendu séparément, ce sont des maisons d'édition séparées. On se demande à quel point ce sont les institutions qui poussent ces divisions, alors que, on the ground, ça se passe très différemment.
Et je vais juste ajouter un petit mot. On sait que dans les années 70, je pense, la station de radio Chaume voulait devenir une station de radio bilingue. Et c'est le CRTC, l'agence réglementaire, qui l'a interdit parce que les annonceurs se plaignaient. Bon, on ne sait pas si c'est un auditoire francophone ou anglophone. C'était un défi pour tout le système de financement des stations de radio par la publicité. Alors, ce qui aurait dû être un rêve fédéraliste n'a pas pu se passer ici à cause, en fait, de l'agence fédérale.
Les éditions Guernica ont eu le même problème et ont dû se réinventer en langue anglaise parce que le projet de bilinguisme, voire de trilinguisme avec l'italien, c'était pas subventionnable. Et bon, les éditeurs ont besoin de subventions pour survivre. Dans le cas de Brooke Rose, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été, bon, peu étudiée, Sherry le disait, mais accueillie comme écrivaine française par les Britanniques, qui ne se reconnaissait pas dans son esthétique expérimentale, et comme une écrivaine britannique par les Français, parce que la langue principale de Between est l'anglais. Donc c'est un roman qui est...
tombé dans le
truc. Il y a aussi, je pense que cette vision œcuménique là, d'un bilinguisme ou d'une harmonie, ou de... En fait, je crois qu'on n'y croit pas de toute manière. La réalité, c'est qu'on parle dans une langue pour, en fait, la majorité des gens. Utilisent une langue, ils s'y tiennent. Et puis, il y a certainement une capitalisation politique et idéologique extraordinaire qui s'est construite au fil des ans, au fil des décennies, à partir des enjeux linguistiques. Hein, parce que de Richard Martineau à Galganov, là, c'est pour moi le scénario de la partition, là, mais bon, qui est joué différemment sur fond de populisme. Plus ou moins délirant selon les individus et selon la conjoncture. Et probablement aussi que, moi je suis loin d'être, enfin je ne suis pas du tout un spécialiste de la traduction, mais je me dis, ce qui prévaut souvent à Montréal dans le domaine culturel en ce moment, je pense, bon c'est un peu ma marotte, vous m'excuserez, mais au quartier des spectacles, c'est le discours culturel d'ambiance, on crée des ambiances. Hein, la signature lumineuse, alors on a ça à l'aéroport Trudeau, on a ça au Sainte-Catherine, on a ça avec le Métropolis, tout ça. Bon, évidemment, l'avantage, c'est que la lumière, ça coûte pas très cher avec Hydro-Québec, donc on peut investir dans la culture, et c'est assez économique. Bon, d'une part. D'autre part, ça me semble être une esthétique d'ambiance, ce qui est pas nouveau, parce qu'on faisait ça avec la musique dans les années 60, avec les ascenseurs. Bon, c'est peut-être plus intéressant ce qu'on fait maintenant par ailleurs. Et j'ai l'impression que toute la problématique de la traduction à Montréal, on la saisit encore à partir d'un discours d'ambiance. C'est-à-dire qu'on en est au préliminaire. C'est pas inintéressant d'ailleurs de se dire, bon, si on se promène dans la rue avec un portable et qu'on enregistre les gens dans différents quartiers, bon, on entend des langues, si on est lettré, on peut entendre le russe, on peut entendre le portugais, surtout l'arabe, l'espagnol, bon. Puis si on est comme un peu monsieur, madame, tout le monde, ben on entend de la musique ou du bruit. Mais il y a là quelque chose qui se joue dans le registre de la traduction, mais je dirais que c'est un registre, comme on le disait autrefois chez les universitaires, un registre pré-symbolique. C'est-à-dire que c'est la dimension des langues qui intervient de façon très sensorielle et sensuelle, sous la forme de rapprochement corporel dans la foule, par exemple, ou dans un café. Et je trouve ça extrêmement intéressant que ça joue à Montréal, parce que ça joue dans beaucoup de villes, bien évidemment, mais il y a toute cette dimension, justement, de ce que l'on appelait le tiers-lieu. Et ça fait partie, à mon sens, du tiers-lieu. À la limite, pour reprendre le propos de Will, il l'amplifie un peu, c'est vrai qu'on voudrait bien que les communautés cohabitent, elles cohabitent, mais qu'elles communiquent, on n'en est pas sûr du tout. Dans le fond, ça n'intéresse personne. Mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est intéressant. Parce que quand moi, je parlais tout à l'heure d'espaces qui permettent une certaine quiétude, ça veut dire que chacun peut accepter d'avoir son territoire, son espace, circuler ou pas. Et il se passe, comme le dit Sherry, par moments, des choses totalement surprenantes. Hein, comme je dirais quelque chose qui se produit de manière, une effraction dans le réel, mais justement parce qu'il n'y a pas, cette obligation. Bien sûr, le français a fait l'objet de législations linguistiques importantes, justifiées, mais le trilinguisme montréalais vient comme, je dirais, symptôme intéressant, je dirais, d'un trop grand succès de la loi 101. Donc, on se retrouve toujours à Montréal avec des situations démesurées, où la traduction, finalement, repose pas sur une volonté de communication que sur soit des impasses qui sont intéressantes, soit des quiproquos aussi intéressants, soit des refus de communication qui font en sorte que, bon, les anciens divorcés se remettent à parler ensemble. Et pour moi, ça me semble un élément important de ce que Sherry fait dans son dernier livre, mais je dirais dans son œuvre, que d'envisager l'aspect de la traduction non pas simplement sous son mode communicationnel, c'est-à-dire sa dimension, je dirais, linguistique, sémantique et linguistique, mais de l'envisager comme quelque chose qui engage d'autres sphères de la façon dont un sujet se représente et se trouve à être dans le monde, le rapport au corps, le rapport au son, le rapport à l'audition, le rapport au sensoriel.
Je laisserai le mot de la fin à Sherry.
Merci. Je pense que le refus de communication est important. Je pense que je voudrais revenir sur le fait qu'il n'est pas question d'un bilinguisme paisible, il n'est pas question d'une traduction nécessairement harmonieuse, que ce qui est intéressant dans la discussion de ces villes dont on parle, c'est justement cette tension, le mélange de désir et de peur qui se joue entre communautés, le fait que les espaces de la ville sont engagés dans ces traversées, qu'il y a mise à distance, que dans toute ville, en fait, il y a ce mélange de proximité, de voisinage, de tracés qui se rejoignent, et de distances énormes. Et c'est parfois les distances qui vont primer, c'est parfois les proximités qui auront raison. Et je pense que ce qu'on craint le plus dans nos villes, c'est que ces distances s'accentuent. Je dirais que ces distances ne sont pas le fruit de la vie urbaine, mais qui sont projetées, qui sont des fantasmes qui nous viennent d'ailleurs et qui peuvent creuser d'énormes distances, mais que ce qui est intéressant dans la ville divisée, la ville duel, la ville à plusieurs langues, c'est d'être constamment en confrontation avec ces dangers, d'être un petit peu, comme disait Simon, instable, mais c'est que cette instabilité soit un bénéfice cognitif. Que de vivre constamment en confrontation avec d'autres codes, d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, d'être conscient qu'il y a toujours un autre mot pour dire la réalité que l'on confronte, c'est positif, c'est un bénéfice, et que ces villes dont je parle forment une sorte de citoyenneté qui a l'avantage de cette instabilité, que cette instabilité soit, c'est ça, un bénéfice. Merci.
Merci à vous trois.